J'aimerais vous exhorter à avoir un cœur qui est enseignable. Plus votre cœur sera tendre, et plus Dieu pourra vous changer, vous transformer à son image. Et plus votre cœur sera dur, et plus il ne pourra pas vous transformer. Dieu nous a donné quelque chose d'exceptionnel, et il l'a fait par amour. Il nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre. Et nous choisissons d'obéir ou pas à sa parole. Nous choisissons de lui obéir ou de l'aimer. Et nous choisissons le degré avec lequel nous l'aimons, avec lequel nous nous donnons à lui. J'aimerais aller dans Matthieu avec vous, au chapitre 16, sur ce thème de mourir pour revivre. La Bible dit, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il peut porter beaucoup de fruits. Matthieu au chapitre 16 et au verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe, il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Puis il les laissa et s'en alla. » Donc ces pharisiens, en fait, ils voulaient toujours un signe de la part de Jésus pour pouvoir croire. Ils voulaient toujours quelque chose de plus de la part de Dieu pour pouvoir s'engager avec le Seigneur. Et il y a beaucoup de gens, ils avaient reçu beaucoup de signes, mais ils ne croyaient toujours pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Jésus est parti. Parce que même après sa résurrection, ces mêmes pharisiens ne croyaient toujours pas. Donc c'est pour ça que Jésus n'a pas directement répondu à leurs questions. Beaucoup de croyants sont semblables à eux. Ils veulent toujours un signe de plus pour pouvoir s'engager avec Dieu. Ils veulent toujours un petit signe. Vous savez, les chrétiens aiment les signes. Et ils en voient beaucoup d'ailleurs. Les chrétiens aiment les signes. Mais la parole de Dieu nous a été donnée afin qu'on puisse asseoir notre vie et notre foi sur elle. Ce matin, je crois que vous avez un cœur enseignable et que Dieu va pouvoir vous transformer à son image, que vous allez pouvoir être des gens à l'image de Jésus-Christ. Quand vous marcherez dans la rue, il y a une odeur qui sort de vous. Vous savez, annoncer l'évangile, ce n'est pas comme le font les témoins de Jéhovah, à force de faire des choses que peut-être les gens seront touchés. Annoncer l'évangile, c'est simplement respirer la vie de Jésus-Christ. Vous pouvez simplement marcher dans la rue et les gens peuvent venir vous accoster, vous demander « Pourquoi vous souriez comme ça ?» Ou même si vous ne souriez pas, « Qu'est-ce que vous avez ?» Parce que c'est surnaturel. Jésus n'a jamais dit aux chrétiens, n'a jamais dit aux enfants de Dieu, n'a jamais dit même aux êtres humains que la vie en lui était une vie humaine et charnelle et intellectuelle, mais une vie surnaturelle. Alors, élevons nos yeux plus haut et attendons-nous, comme l'a dit le frère ce matin, au Dieu élevé qui répond à tous nos besoins. Et nous avons un profond besoin spirituel, ici au Québec, au Canada, dans la francophonie, un profond besoin d'hommes et de femmes qui sont oints par la puissance du Saint-Esprit, qui sont prêts à livrer leur vie pour la cause de Christ. Ce n'est pas tous qui livrent leur vie pour Jésus-Christ. Et parmi la foule, ce n'était pas tous, parmi ceux qui suivaient Jésus, qui étaient prêts à livrer leur vie pour lui. Parce que lorsque la tempête est venue, lorsque ce que Jésus leur avait enseigné, on aurait dit que rien de ce qu'il n'avait enseigné n'était vrai. Lorsqu'il était mort sur cette croix et qu'il était dans le tombeau, les gens doutaient. Les gens ont dit, c'est un mensonge. Peut-être qu'ils se réunissaient encore, mais ils ne croyaient plus. Et dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de gens comme ça. Ils ont la parole de Dieu, mais ils ne croient plus, ils sont incrédules. Alors ils sont fidèles à Dieu, ils essaient de le suivre, mais ils ne croient plus en sa puissance. La foi, c'est une démonstration. La foi se démontre toujours. Un homme ne peut pas dire qu'il est dans la foi s'il ne démontre pas sa foi. Et la foi, c'est ce qui est agréable à Dieu. Dieu honore la foi. Il la mange. Il en a besoin. C'est un combustible pour pouvoir agir dans ta vie. Dieu a besoin de ta foi pour pouvoir agir dans ta vie. Et l'Église francophone a besoin d'hommes qui soient complètement brisés par Jésus-Christ. Et je ne parle pas de maladie. mais je parle d'un brisement qui vient d'un choix de soumission et d'amour pour Jésus-Christ. Le Seigneur ne veut pas plus pour vous que vous puissiez mourir ce matin à vos propres désirs, à vos propres rêves, à vos ministères, à tout ce que vous aimez, afin de pouvoir vivre pour lui. Jésus-Christ avait un message radical. Personne ne peut être mon disciple s'il ne me met pas en premier dans sa vie. Personne ne peut me suivre s'il ne haït pas sa vie. Et c'est ce dont nous allons parler ce matin. Dans Matthieu 11, au verset 16, Jésus a dit « À qui comparerai-je cette génération ? Elle ressemble à des enfants qui sont assis là sur des places publiques et qui appellent leurs compagnons en disant « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. » Car Jean est venu, il ne mangeait ni ne buvait et l'on dit « Il a un démon. » Dans un autre passage, il est dit « Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean « Mais qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir un homme vêtu d'habits précieux ? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. » Les gens étaient des spectateurs. Il y a beaucoup dans l'Église, et j'aime l'Église. Je crois qu'une vie chrétienne doit se vivre obligatoirement dans l'Église locale. Il n'y a pas de vraie vie chrétienne sans Église locale. Et ces gens étaient des spectateurs. Ils regardaient ce que Jésus était en train de faire. Oui, ils étaient là dans l'Église. Ils auraient été là parmi nous, et peut-être qu'ils sont là aujourd'hui, regardant ce que Jésus faisait. Ils étaient là sur le côté et dans la foule, comme des spectateurs. Et Jésus dit, mais à quoi comparerais-je cette génération ? Finalement, il y a des enfants qui vous encouragent à faire quelque chose. Et personne ne bouge, personne n'agit. Mais qu'êtes-vous allé voir dans le désert ? Est-ce que vous êtes allé voir quelqu'un d'important, quelqu'un de connu ? Est-ce que vous êtes allé voir quelqu'un qui est à la mode ? Et pourquoi êtes-vous dans l'église ce matin ? Pourquoi êtes-vous venu ce matin ? Quelles sont vos ambitions ? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ce matin ? Pourquoi vous êtes là ? Est-ce que c'est pour entendre un homme parler ? Est-ce que c'est pour entendre Dieu vous parler et vous transformer à son image ? Est-ce que c'est par habitude ? Est-ce que c'est parce que c'est le dimanche ? Hier, on était samedi. Alors aujourd'hui, c'est le dimanche. Donc vous êtes venu. La Bible dit de parler avec vérité et dans l'amour. Si vous ne livrez pas votre vie pour Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être un disciple de Jésus-Christ. Vous serez un chrétien, vous serez né de nouveau, vous irez au ciel, mais vous perdrez votre récompense. C'est une chose qui est vraie. Et ces pharisiens étaient là et regardaient Jésus. Ils se disaient, c'est intéressant. Ils écoutaient ses paroles. Ils disaient, ça c'est particulier ce qu'il a dit. Ils disaient, moi j'aurais pas fait comme ceci. Moi j'aurais pas fait comme cela. Ah, tu vois, aujourd'hui, l'apôtre, à côté de lui, le disciple, il a changé d'habit. Son habit est un peu trop luxueux. Ah, tu vois, Jésus, il a dit ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Et les gens regardaient et regardaient sans jamais ressembler à Jésus-Christ. Ils étaient tout le temps avec Jésus, attirés par leurs propres besoins. Jésus leur a dit, vous me suivez non pas pour qui je suis, mais parce que je vous ai donné à manger. Et il y a beaucoup de chrétiens qui suivent Jésus, non pas par ce qu'il est, pour ce qu'il est, mais parce que ce Jésus répond à leurs besoins. Il répond à leurs besoins affectifs. Il répond à leurs besoins parce que Dieu nous a créés avec un creux à l'intérieur de nous qui doit être rempli par une vision. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de vision. Une vision pour leur vie. Des gens qui viennent parce qu'ils ont besoin d'être nourris spirituellement, matériellement. Les gens viennent à Jésus pour toutes sortes de besoins. Mais Jésus a dit, je paraphrase, venez à moi pour le vrai besoin, pour le bon besoin. Venez à moi pour celui que je suis. Et si vous êtes aujourd'hui, ce matin, ma prière, même si vous êtes venu avec de mauvaises motivations ou sans aucune motivation, c'est que vous puissiez rechercher Jésus-Christ. Apprendre à le connaître. On a partagé ces deux jours le désir de l'apôtre Paul de connaître intimement Jésus-Christ. Ça doit être ta prière, connaître celui qui t'a sauvé, parce qu'il est extraordinaire. Dans Philippiens, on va aller dans ce passage et on va y passer un peu de temps, au chapitre 1 et au verset 3, l'apôtre Paul va parler à cette église et il va leur dire « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous tous, de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Car je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Il est dit ici qu'il se réjouissait à cause de la part que cette église prenait à l'Évangile de Jésus-Christ. Et ce n'est pas parce que tu as été touché par l'Évangile que tu es en train de prendre part à l'Évangile. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par l'Évangile, mais il y a peu de gens qui prennent part à l'Évangile. Parce que prendre part à l'Évangile, c'est en fait une participation. C'est une libéralité. C'est une main d'association. C'est une contribution. C'est un partenariat avec l'Évangile. Ce n'est pas parce que tu as été touché par l'Évangile qu'actuellement tu prends part à l'Évangile. L'apôtre voyait beaucoup plus loin que ça. Vous voyez, par exemple, sur enseignement.com, actuellement, on a 500 000 visites par mois sur ce site d'enseignement biblique. Vous avez 250 ministères qui enseignent la parole de Dieu. Et sur ces 500 000 visites, ils sont sur le site Enseigne-moi, mais ils ne prennent pas part au site Enseigne-moi forcément. Parce qu'en fait, les gens, et malheureusement beaucoup les chrétiens, à cause de la mentalité du monde, se sont forgés une mentalité de consommateur. Les chrétiens, ils consomment. Ils consomment, ils consomment. Et ils disent, mais Jésus a dit, tout est gratuit. Alors je consomme. Alors ils vont dans une église, et là ils consomment, ils consomment, ils consomment. Ils prennent toute la force du pasteur. Toute sa force, toute sa joie, toute sa paix. Ils prendront tout et ils partiront avec tout ça. Ils iront dans une autre église faire la même chose. Parce que les chrétiens sont devenus des consommateurs. Ils consomment tout ce qu'ils peuvent. Ils mangent. Vous voyez, comme des chenilles qui commencent à rentrer dans une pomme et qui commencent à la manger sans rien laisser, pas même le pépin. Voilà comment des serviteurs de Dieu sont à moitié morts de faim à cause de gens qui voulaient juste consommer. Donc Dieu ne nous appelle pas à être juste des consommateurs. Cette année, on a peut-être eu, pour parler d'un exemple concret pour moi, on a eu 1 million de personnes différentes qui sont venues sur ce site Enseigne-moi. Ces 1 million de personnes ont écouté des prédications, ont lu des messages, ont écouté des vidéos, mais ils n'ont pas pris part forcément à Enseigne-moi. Les gens qui ont pris part à Enseigne-moi sont des gens qui ont prié avec ferveur pour Enseigne-moi. Je peux dire que ces gens ont pris part à Enseigne-moi. Et ces gens auront de la part de Dieu une récompense. Les gens qui ont pris part à Enseigne-moi sont des gens qui nous ont donné des idées, qui nous ont fait des remarques, qui nous ont bénis, qui nous ont envoyé des choses pour nous dire « J'aime votre travail, soyez encouragés de la part de Dieu ». Ces gens-là ont pris part à Enseigne-moi. Les gens qui ont pris part à Enseigne-moi et vous attendiez ça, sont des gens qui nous ont bénis financièrement. Parce que l'Évangile est gratuit. Mais partager l'Évangile coûte très cher. Très cher. Il n'y a pas longtemps, on avait sur le Facebook d'Enseigne-moi, j'avais mis « Pensez-vous qu'Enseigne-moi a comme charge mensuelle, c'était en euros je crois, entre 0 à 1000 euros, entre 1000 à 2000 euros, entre 2000 à 5000, etc. etc. » Et la moitié des gens pensaient que peut-être on avait 1000 euros de charges, ce qui fait 1 500 $. Il y en a aussi pas mal qui pensaient que c'était gratuit. Parce que les gens pensent que tout est gratuit. Les gens vont dans une église, ils participent à une conférence, et ils pensent que tout est gratuit. Parce que c'est l'Évangile. Alors tout doit être gratuit, c'est l'Évangile. Mais Jésus-Christ, vous savez qu'il payait. Il payait pour ses disciples. Il leur payait à manger. Il avait des gens avec lui constamment qui mangeaient beaucoup. Et la Bible dit que c'était des femmes riches qui soutenaient le ministère de Jésus. Des femmes riches, parce que ça coûtait. Les gens disent qu'ils n'avaient pas de lieu où aller, mais on sait que Jésus avait une maison où il allait régulièrement. Et cette maison, peut-être qu'on ne leur avait pas donné. comme ce bâtiment ne vous est pas donné. Donc ça coûte quelque chose. Et ceux qui financent l'évangile prennent part à l'évangile. Alors certains diront, moi je donne ma dîme, donc je prends part à l'évangile. Mais la dîme est juste un signe d'obéissance à Dieu, un signe de consécration à Dieu. La dîme, c'est juste une relation entre toi et Dieu. Une offrande, c'est différent. L'offrande vient voir jusqu'où tu aimes Dieu. Alors que la dîme regarde juste si tu obéis à Dieu. Mais l'offrande, c'est quelque chose de plus. Quand le pasteur vient et te propose de faire une offrande pour la mission, par exemple, là, c'est plus la dîme, c'est une offrande. C'est plus. Et il y a des gens qui disent, mais la dîme, c'était pour l'Ancien Testament. Et je pourrais leur dire, c'est vrai, puisque dans le Nouveau Testament, il n'y a plus question des dîmes. Il est question de donner tout notre argent. Tout notre argent. Et les gens qui disent, c'est plus la dîme, c'est plus pour aujourd'hui, sont des gens qui sont radins. Ils donnent rien du tout. Il y a des serviteurs de Dieu qui viennent, tiens, 5 dollars. Oh, béni, tu es béni, hein, 5 dollars. Et je ne parle pas pour moi, je ne veux pas de votre argent. Je parle pour vous enseigner. Je ne suis pas là pour prendre votre argent, j'ai déjà tout pleinement en Jésus-Christ. Je suis béni, tellement béni. Mais juste pour vous montrer que prendre part à l'évangile, c'est vous donner dans l'évangile. Ceux qui étaient autour de Jésus et la foule que Jésus a nourrie n'étaient pas en train de prendre part au ministère de Jésus-Christ. Mais ce petit enfant qui est venu avec 5 pains et 2 poissons a pris part à l'évangile. Et ce petit enfant est en train actuellement de jouir de sa récompense. Et il en jouira pour l'éternité. Vous ne savez pas. La Bible dit que tout ce que vous faites, Dieu n'oublie aucun de vos bienfaits. Aucune des choses que vous faites pour lui. Et les gens n'imaginent pas que lorsqu'il sème une prière, faite avec passion, lorsqu'il sème un mot d'encouragement, lorsqu'il sème une obéissance, ce sera des éternités d'éternités de récompenses. Des millions et des millions et des milliards d'années de récompense. Les gens ne réalisent pas que lorsqu'ils obéissent à Dieu, alors que Dieu leur demande quelque chose, ce sera des milliards d'années de récompense. Parce que Jésus a parlé de la récompense. Et la récompense n'est pas ce qui nous motive. Mais la récompense parfois nous encourage. Et elle est là pour nous faire tenir bon. Ce qui nous motive, c'est l'amour pour les gens. Jésus, la Bible dit dans Matthieu 9, 36, voyant la foule, il était ému de compassion. Parce qu'il la voyait comme des brebis qui n'ont pas de berger. Vous avez un bon berger, certainement excellent, avec son épouse. Des gens qui prennent soin de vous. Des gens qui vous aiment. Et je veux prendre part aujourd'hui à leur ministère, en vous bénissant et en vous aimant. En vous disant la vérité avec amour, afin de vous provoquer au changement. Afin de voir parmi vous des gens qui veulent changer. Il n'y a pas d'âge pour changer. On peut changer à 80 ans. On peut changer à 100 ans. On peut même changer à 119 ans. Jusqu'à ta dernière seconde, tu peux changer. Ça, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Quelque chose de gratuit. Parce que tout est gratuit en lui. On n'achète pas sa bénédiction. Donc, il y a une très grande différence entre écouter l'évangile et même vivre de l'évangile et prendre part à l'évangile. En fait, la définition littérale au verset 5, à cause de la part que vous prenez à l'évangile, prendre part, c'est cette communion, un échange. La communion, c'est un échange. Je sais qu'il y a des femmes qui ont un problème avec ça, parce que quand elles sont au téléphone, elles parlent juste et elles n'écoutent pas ce que les autres disent. Mais ce n'est pas ça la communion. La communion, c'est un échange. Tu parles et normalement, l'autre personne te répond. Que celle qui a des oreilles écoute et entende et comprenne. C'est aussi la participation, prendre part à l'évangile, la libéralité, la main d'association, la contribution, le partenariat. Il y a un esprit de partenariat et vous êtes partenaire avec Jésus-Christ. Dieu est Dieu. Et à un moment, les disciples, lorsque Jésus-Christ est monté, ils étaient en train de regarder à Jésus et des anges ont dû venir leur dire, mais pourquoi vous arrêtez-vous à regarder celui qui est parti? Celui qui est monté, il descendra de la même manière. Ils étaient en train de dire, mais sors de là. Maintenant, il t'a montré l'exemple. Maintenant, c'est à vous d'agir. Et les gens dans l'église, souvent, regardent juste à Jésus. Oh Jésus, fais ceci. Oh Jésus, fais cela. Oh Jésus, tu vois ceci. Oh Jésus, tu vois cela. Oh Jésus, tu vois ceci. Et ils ne font rien eux-mêmes. Mais nous avons une grande responsabilité en tant qu'enfants de Dieu. Une très grande responsabilité. Hier et avant-hier, j'ai parlé à propos du fait que vous pourriez même être parfait, entre guillemets. Donner votre dîme, aller à l'église, être fidèle, bien connaître la parole de Dieu, venir d'une lignée de pasteurs, être excellent. Mais l'apôtre Paul regardait tout ça comme de la pourriture, comme de la boue. Parce que ce n'est pas avec notre justice légale, avec notre justice personnelle, que Dieu va agréer ce qu'on est. Mais c'est avec un cœur d'humilité. Et de savoir que même si nous faisons toutes ces choses que Dieu nous demande, c'est lui seul qui le fait en nous. C'est grâce à lui seul que nous pouvons le servir. Mais nous avons notre responsabilité. Notre responsabilité est de mourir. Il y a trop de grains de blé qui sont en terre actuellement, mais qui résistent à mourir. Parce que la mort, ça fait mal. Et la Bible dit que quand quelqu'un te corrige, la correction paraît au premier abord être quelque chose qui est mauvais. Mais lorsqu'elle entre dans un bon cœur, elle transforme les gens. Elle change les gens. Et en fait, la remarque de la part de Dieu est une bénédiction. Quand Dieu te reprend, ne vois pas ça comme quelque chose qui va te faire mal, mais c'est une bénédiction parce que Dieu est en train de te changer. Donc, quelle est la part que tu donnes à l'Évangile? Quelle est ta participation actuellement à l'Évangile? Quel est ton partenariat? Alors que vous êtes assis, vous n'êtes pas en train d'être partenaire forcément avec Jésus. Si vous écoutez activement et que vous avez soif de changer, vous êtes partenaire. Vous avez besoin d'être partenaire en lui. Jésus a tout pris de Pierre. Il a tout pris de l'apôtre Paul. Tout, complètement. Il n'a rien laissé. Jésus a dit à Pierre, « Je vais te montrer comment tu vas souffrir pour moi. » Il a dit la même chose à peu près à l'apôtre Paul. Mais ces gens, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, c'est des gens qui avaient dit oui à Dieu. Des gens qui étaient prêts à livrer leur vie pour lui. Dieu ne viendra pas tout prendre de ta vie si tu ne le veux pas, parce que Dieu t'a donné ce libre arbitre. Et Dieu ne viendra jamais violer quelqu'un parce qu'il est Dieu. Jamais forcer quelqu'un parce qu'il est Dieu. Voilà pourquoi on peut voir partout dans le monde des églises avec des gens qui ne portent pas de fruits. Parce qu'ils ont pourtant un grand Dieu. Mais Dieu ne viendra pas les forcer à porter du fruit. La Bible dit, si le grain de blé ne tombe en terre, c'est l'image de notre nouvelle naissance, et ne meurt, il reste tout seul, sans fruit, sans amis. Mais s'il meurt, il peut porter beaucoup de fruits. Si Dieu veut te voir mourir, c'est pour te voir revivre en lui. La Bible dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, « Insensé, ne sais-tu pas que pour revivre, il faut que la graine meure ?» On va le lire pour avoir les termes exacts. « Insensé, ce que tu sèmes, 1 Corinthiens 15, 36, ce que tu sèmes ne reprend pas vie. » S'il ne meurt. Tu ne reprendras pas vie si tu ne meurs. La vie de Dieu ne pourra pas toucher ta situation si dans cette situation et ce domaine de ta vie, tu n'es pas prêt à mourir à tes propres désirs, à tes propres façons de faire, à tes propres moyens d'y arriver. Tu as besoin de mourir à ton intellect, à tes raisonnements pour voir Dieu agir dans cette situation. Dieu veut entrer dans un partenariat avec toi. L'apôtre Paul disait dans Philippiens, on va retourner au chapitre 1 et au verset 27. Seulement, il parlait toujours à cette même église, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir ou soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Ces chrétiens, ils étaient zélés, mais apparemment, lorsque l'apôtre s'absentait, leur zèle diminuait. Et il les encourageait, que je sois là ou pas, rester zélé et continuer de combattre pour l'évangile. Ils ne prenaient plus part à l'évangile, en fait. Ils étaient en train de rétrograder. Ils se décourageaient. La Bible dit, car il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Et cette parole, elle est pour vous. Il vous a été fait la grâce, à vous qui m'écoutez, non seulement d'avoir la vie de Jésus en vous, non seulement de pouvoir jouir de toutes sortes de bénédictions, mais aussi de souffrir pour Jésus, de la vraie souffrance du serviteur de Dieu. Et en fait, les gens calculent combien et à quelle mesure ils vont se donner. La Bible dit que lorsque tu viens à Jésus-Christ, tu dois te donner entièrement. Et peut-être que tous parmi nous, on a fait cette prière. Seigneur, je te donne toute ma vie. Donc, ta vie ne t'appartient plus, mais tu as le pouvoir de la reprendre. Parce que Dieu, malgré cela, malgré cet engagement que tu as pris avec lui, te laisse ton libre arbitre. Dieu ne nous a pas demandé moins que de nous donner entièrement à lui. Ta vie ne t'appartient plus. Et malheureusement, alors que ta graine est tombée et que tu es dans la terre, c'est une position inconfortable pour une graine. Jésus a dit, celui qui entre par moi, il entrera, puis il sortira, et ensuite il trouvera des pâturages. Et les chrétiens sont entrés en Jésus, la graine est tombée dans la terre. Mais Jésus a dit que tu dois entrer et tu dois sortir. C'est ce que la Bible dit. Donc il y a en fait un hall d'entrée. Et dans ce hall d'entrée, il y a beaucoup de graines en terre qui ne sont pas prêtes à mourir. Et dans ce hall d'entrée, il est étroit. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens. Ils sont assis les uns sur les autres. Et quand tu es assis les uns sur les autres, c'est pas confortable. Et je peux dire que beaucoup de chrétiens sont actuellement dans ce hall d'entrée. Oui, ils sont entrés par Jésus. C'est une chose qui est faite. Ils sont sauvés. Mais Jésus a dit, il sortira. Et il trouvera des pâturages. Mais tant que tu ne passeras pas ce hall d'entrée, tant que tu ne voudras pas mourir à toi-même, tu ne pourras pas trouver ces pâturages. Tu pourras sentir l'odeur des pâturages. Tu pourras même parfois, une fleur pourra tomber parce que tu es proche du pâturage. Mais tu ne pourras pas porter les fruits du pâturage. Jésus a dit, mes disciples porteront du fruit. Ils porteront du fruit. Et beaucoup de croyants sont dans ce hall d'entrée. Toujours en train de résister à la mort. Mes besoins, mes façons de penser, ma vie, ma voiture, mon argent, mon temps, mes soirées, mes dimanches matins. Les gens calculent et mesurent la proportion à laquelle ils vont se donner pour Dieu. Alors qu'ils ont pris cet engagement de donner toute leur vie à Dieu. Imaginez si, alors que je m'étais marié, le lendemain matin, ma femme n'était plus là. Elle revenait 2 semaines après, ou 1 mois après, juste pour combler ses besoins. Est-ce que ce serait une bonne femme? Non. Et malheureusement, tellement de chrétiens ont fait ça. Ils ont donné leur vie à Jésus. Ils sont entrés dans un engagement. Et le lendemain, Jésus était là, en train de les chercher. Et il n'était plus là. Ils étaient partis à leurs occupations. La Bible dit que Dieu avait fait un grand repas. Un grand repas. Et quelqu'un s'est dit, mais j'ai acheté des bœufs. Il faut que j'aille les essayer. L'autre a dit, j'ai acheté un champ. Je viens de me marier. Ils avaient tous une raison valable, bonne. Personne n'a dit, je devais aller tuer quelqu'un. Leur raison était valable et bonne, mais ils n'avaient pas les bonnes priorités. Et la vie chrétienne, la vie d'un disciple de Jésus-Christ, c'est une question de priorité. Où est Dieu dans ta vie? Est-ce que ta famille passe avant Dieu? Est-ce que ton travail passe avant Dieu? Est-ce que même si ta femme ou ton mari te quitte, est-ce que tu continueras à suivre Dieu? Est-ce que si les finances te quittent, tu continueras à suivre Dieu? Est-ce que si la tempête vient sur toi, est-ce que tu continueras à suivre Dieu? À quelle mesure tu as décidé, parce que tu t'es décidé à un moment, de te donner à Jésus? Alors que tu avais donné ta vie à Jésus-Christ, à celui qu'on appelle le Maître. Et Jésus disait, vous m'appelez le Maître et le Seigneur, mais ceux qui m'aiment, ce sont ceux qui gardent mes commandements. Dieu a été clair, ce ne sont pas ceux qui écoutent ma parole qui sont mes disciples, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Les vrais disciples de Jésus sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, ceux qui livrent leur vie pour l'Évangile. Voilà pourquoi Dieu a établi des ministères afin d'équiper les saints. Il est dit dans Galates, je vais lire pour vous, Éphésiens, pardon. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service ou du ministère et de l'édification du corps de Christ. Dieu a appelé des gens, et c'est vraiment tout un business pour Dieu, de trouver des gens qui sont prêts à livrer leur vie pour l'Évangile. C'est tellement difficile pour Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer quand 100 personnes rentrent dans une école biblique, et vous n'êtes pas obligé de faire une école biblique pour servir Dieu, sur ces 100 personnes, au bout de 10 ans, il en reste peut-être 5 qui servent encore Dieu. Oui. C'est les statistiques qu'on voit partout dans le monde. Et Dieu a du mal à trouver des gens qui sont prêts à livrer leur vie. Parce que Dieu donne des ministères pour équiper les saints, afin que ces personnes puissent faire la même chose qu'ils voient faire. L'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs, parce que moi je suis aussi imitateur de Christ. Mais il leur montrait aussi cette vérité, que même s'ils tombaient, il faudrait toujours regarder à Jésus. Jusqu'où es-tu prêt à te donner pour Dieu? Les gens ne veulent pas se donner à Dieu, ils ne veulent pas obéir à Dieu parce qu'ils pensent toujours qu'ils vont perdre quelque chose. Et comme dit ma femme, ce n'est pas une perte, mais c'est un gain. Et beaucoup de gens voient des choses comme une perte. Si j'obéis à Dieu, ce sera une perte pour moi. Mais tu ne sais pas que Dieu prépare un gain pour toi. Les gens ne veulent pas obéir au Seigneur. Ils ne veulent pas quitter certaines personnes alors que Dieu leur avait parlé, parce qu'ils ont l'impression que ça va être une perte pour eux, alors que Dieu a prévu quelque chose de mieux pour eux. Les gens ne veulent pas soulever des choses qui les empêchent d'avancer, alors que s'ils les soulevaient, en dessous, ils trouveraient des diamants et des pierres précieuses de la part de Dieu. Et les gens pensent que Dieu veut leur mal, alors que Dieu veut notre bien. Si Dieu t'appelle à mourir, c'est parce que Dieu sait que lorsque la graine est tombée en terre, et qu'elle meurt, une plante pleine de vie peut pousser. Et ce n'est pas une question de la graine. Jésus a dit, il suffirait d'un grain de moutarde, la plus petite des graines. Tu te sens peut-être comme le plus petit, mais lorsque ce grain tombe en terre et meurt, qui que tu sois, d'où que tu viennes, quels que soient les gens qui étaient en train de porter ta graine, lorsque tu tombes en terre et que tu meurs, quel que soit l'endroit où tu te trouves sur la terre, quelle que soit l'église où tu te trouves, quelle que soit la famille ou la maison que tu habites, quand tu tombes en terre et que tu meurs réellement, il y a de la vie qui va sortir de toi. La puissance de Dieu va sortir de toi. La vie de Dieu sortira de toi. Quand tu seras prêt, malgré les difficultés, malgré les tempêtes, à continuer à être fidèle et poussé, Jésus-Christ fera sortir la vie de toi. Jésus a fait une promesse extraordinaire. Il a dit à chaque croyant que des fleuves d'eau vive couleront de leur esprit. Couleront de leur esprit. Si tu es un enfant de Dieu, sache que tu as un esprit qui a été recréé par Dieu. Et de cet esprit, tout est parfait. Dieu est venu habiter dans cet esprit. Et il y a une vie qui est disponible en toi. Extraordinaire. Et les gens regardent au ciel alors que Dieu habite en eux. Les gens regardent aux gens et ils veulent toujours être aidés par les autres. Alors que Dieu habite en eux. Dieu vit en eux. La vie de Dieu est en eux. La puissance de Dieu est en eux. Les finances sont en eux. Leur époux est en eux. Ils ont tout pleinement en Jésus-Christ. Tout parfaitement en Jésus-Christ. Ne cherchez pas ailleurs. Celui qui est en vous Il est en vous. En vous. Et alors que vous mourrez, oh Seigneur, mais c'est dur. Oh Seigneur, mais tu avais dit dans ta parole que tu pourvoyais à mon besoin. Regarde, j'ai donné ma dîme pendant 5 mois et j'ai un problème d'argent. Oh, c'est dur, Seigneur. Alors je fais demi-tour. Tu es en train de refermer ta graine. Comment Dieu te bénira? Comment Dieu pourra envoyer sa pluie sur ton il la verra que sur ton écorce, alors qu'il a besoin de toucher ton cœur. Il faut que ta graine meure. Il faut qu'elle se disloque. Qu'elle meure complètement pour que la vie de Dieu entre en toi. Dieu te donnera à la limite de ta foi. Dieu te donnera à la limite de ton obéissance. Dieu te donnera à la limite de ta mort. Plus tu vas mourir en lui, plus tu vas t'identifier à Jésus-Christ, plus sa vie pourra couler en toi. Plus il pourra te bénir. Plus il pourra t'envoyer. Plus tu porteras du fruit. Ne regarde pas aux échecs des autres. Regarde à Jésus-Christ. Ne regarde pas à ce que les autres ont vécu. Regarde à Jésus-Christ. Nous ne sommes pas appelés à regarder les échecs des gens qui nous entourent. Les gens regardent autour d'eux. Ils lisent la parole de Dieu. Voici les signes qui accompagneront les miracles. Ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades, etc. Mais moi, je ne vois personne autour de moi qui fait ça. Alors là, ils se mettent au diapason des autres. Ils sont là, comme je l'ai montré avant-hier, parmi les gens qui sont congelés, toujours en train de louer Dieu, mais congelés. Ils se rangent avec les autres. Ceux qui ne veulent pas déranger se rangent. Si vous ne voulez pas déranger, vous allez vous ranger. Tranquillement. Mais ceux qui veulent suivre Jésus-Christ dérangeront. C'est une vérité. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et l'apôtre Paul ne parle pas ici du péché seulement. Parce que de toute façon, le péché, c'est quoi? C'est rater la volonté de Dieu pour notre vie, c'est rater la cible. C'est manquer le but de pourquoi nous sommes là. Mais il leur disait, dans vos façons de vivre, ayez des façons de vivre qui soient dignes de l'évangile. Des façons de vivre, des façons de penser, des choix de vie au quotidien qui soient dignes de l'évangile. Conduisez-vous comme des citoyens, comme des ambassadeurs du royaume de Dieu. En fait, nous sommes et tu es dans le royaume de Dieu un administrateur. La Bible dit que l'administrateur doit être trouvé fidèle. La Bible dit de Moïse qu'il a été trouvé fidèle dans toute la maison de Dieu. Comment cet homme en est arrivé là? Il est dit dans Hébreux 11. Imaginez, Dieu a dit de lui, il a pris comme exemple, c'est extraordinaire. Ne voudrais-tu pas que Dieu prenne ta vie comme exemple? Il dit au verset 24, c'est par la foi que devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il refusa d'être reconnu par les autres. Il refusa tout ce qu'il avait. Il refusa la reconnaissance des gens. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Oui, il y a une jouissance dans le péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Il voyait les trésors de l'Égypte. Il avait toutes les femmes qu'il voulait, tout l'argent qu'il voulait, toute la nourriture qu'il voulait, comme les païens de ce monde, qui vivent pour leur maison, qui vivent pour leur travail, qui vivent pour leurs enfants, qui vivent pour nourrir, pour profiter de la vie. C'est dommage d'attendre la retraite pour que cette graine meure et puisse porter la vie. J'aurais tellement aimé mourir alors que j'étais au collège, ici vous appelez ça le cégep. J'aurais tellement pu être une bénédiction pour mes professeurs, pour des gens, des professeurs qui étaient là dans la dépression. Et au lieu de ça, j'étais en train de les faire pleurer plus. Parce que je n'étais pas mort. J'étais dans ce hall d'entrée, oh, en train de résister à la volonté de Dieu pour ma vie. Dans mon rétrogradage, résistant à ce que Dieu veut faire. Dieu t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi il veut te changer, pour que tu puisses porter du fruit. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Dieu est totalement illimité. Illimité, il n'y a aucune limite en lui. Dieu est seulement limité par ta foi. Jésus-Christ guérissait tous les malades, il ne laissait personne de côté. À un moment, quand la foule venait à lui, il les guérissait tous. Mais lorsqu'il arriva chez lui, il trouva là de l'incrédulité et il ne put rien faire. Si Dieu ne t'aide pas dans ta situation, c'est pas parce que il ne veut pas. mais c'est certainement parce qu'il ne peut pas. Mais par ta fidélité, regardant comme Moïse les choses que tu ne veux pas lâcher, si tu les regardes comme étant de la pourriture, parce que tu es en train de regarder à Christ, Christ va t'élever. Christ te fera triompher. Il est dit dans Colossiens, au chapitre 3 et au verset 1, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, parce que c'est ce que nous sommes réellement, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ. En fait, nous sommes déjà morts. Ça, c'est notre nature, notre état de fait. Nous sommes spirituellement morts et la vie de Dieu est entrée en nous. Mais malheureusement, dans le naturel, nous voulons vivre comme étant vivants dans notre vieille nature. Notre vieille nature est morte. Ne retournons pas en arrière. Votre vie est cachée avec le Christ. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Il est dit au verset 17, « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Tout ce que vous faites dans votre vie, faites-le pour Jésus. Faites-le pour Jésus. Si vous avez des projets, faites ces projets pour Jésus. Et si ces projets ne sont pas de lui, ayez un cœur tendre pour pouvoir changer. Nous ne sommes pas appelés à faire notre volonté. Les gens prient toute leur vie. Seigneur, bénis ma volonté, bénis mes plans, bénis mes désirs. Mais Dieu ne bénit pas nos plans. Dieu bénit seulement ses plans. Il ne peut envoyer ses bénédictions que sur ses plans à lui. Et je t'assure que si tu choisis les plans de Dieu, ça va te coûter cher. Oh, au début, ça va te coûter cher. Les gens auront l'air de réussir autour de toi, alors que toi, on aurait dit que tu es dans la défaite. Et tu parleras de Jésus et les gens se moqueront de toi. Les gens auront des bons travails et des bonnes choses. Et se diront, c'est ça ton Jésus. Mais quand tu vas lui rester fidèle, quand tu vas marcher avec sa mentalité, il va faire de toi, non pas un Saul pleureur, mais un olivier verdoyant, sous lequel tous ces gens qui avaient bâti leur vie sur le sable, quand la tempête passera, peut-être que ta maison a été bâtie plus doucement, et la leur plus vite, mais ils l'ont bâtie sur le sable. Quand la tempête viendra, ils seront ravagés, ils n'auront plus rien. Ils viendront s'abriter sous tes branches. Ils viendront chercher la paix auprès de toi. Et alors que les moqueurs se moquaient de toi, ils viendront auprès de toi chercher la solution. Et tu ne diras pas, c'est grâce à ma mentalité, c'est grâce à mon intelligence, ou c'est grâce à ma fidélité à Dieu. C'est parce que j'ai été à l'église. Non, tu diras, c'est juste grâce à Jésus. Juste grâce à lui. Parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Pas moins que ça. Christ en toi, c'est l'espérance. L'espérance pour ces nations. Vous êtes le carrefour des nations. Il faut que les nations, il faut que cette nation voie la gloire qui vit en toi. Il y a une gloire extraordinaire qui vit en toi. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous pensez, de tout ce que vous pouvez imaginer avec vos petites pensées. La Bible dit, mais Dieu a des pensées tellement élevées. Les cieux et la terre, ainsi sont les pensées de Dieu et les pensées de l'homme. Tellement élevées. Mais Dieu nous appelle, non pas à ce que ce soit comme ça toujours, mais Dieu t'appelle à t'élever dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, afin de revêtir ses pensées, l'homme nouveau, de le revêtir une fois pour toutes, et d'avoir les pensées de Dieu. Oui, ce que la Bible dit est possible. Oui, je suis le sel de la terre. Oui, je suis la lumière du monde. Oui, j'imposerai les mains aux malades et ils seront guéris. Oui, je délivrerai des gens. Oui, je guérirai des gens par Christ qui vit en moi. Parce que ce n'est plus Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis en Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Ils le disent, oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et alors qu'on les appelle à faire quelque chose dans l'église, ah non, pasteur, je ne peux pas. Ah non, pasteur, je viens de me marier. Ah non, pasteur, j'ai acheté des bœufs, il faut que j'aille les essayer. Ce n'est plus Christ qui vit en toi. C'est toi qui vis. Tu vis peut-être en Christ, mais lui ne vit plus en toi. L'apôtre a pu le dire. Jean avait dit, il faut que je diminue et que tu grandisses. Mais l'apôtre Paul a été encore plus loin. Il a pu dire à la fin de sa vie, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'était une réalité dans sa vie. C'était pas juste une confession de foi, une espérance, une réalité. Il avait tellement livré sa vie. Je vais bientôt terminer. Jésus a dit, quiconque ne renonce pas à sa vie ne peut pas être mon disciple. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui l'a dit. Quiconque ne renonce pas à toute sa vie, à tout ce qu'il est, à ses besoins, ne peut pas être mon disciple. Il a dit dans Luc 14, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas, ou encore s'il ne fait pas passer après moi, son père, sa mère, sa femme, même ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Comme je l'ai dit hier, aujourd'hui dans toutes les églises, on accueille les gens. Parce que l'église accueille les gens et l'église aime les gens. Et Jésus aussi accueillait les gens. Mais au travers de sa parole, il faisait le tri. Et à la Pentecôte, il restait peu de personnes. Peu de personnes. Et quiconque ne porte pas sa croix, porter sa croix, c'est accomplir et obéir à Dieu. Et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ce n'est pas à Jésus de te suivre, c'est à toi de suivre Jésus. Jésus ne doit pas te suivre dans toute ta vie. Si tu déménages là-bas et que Dieu ne t'a rien dit, comment veux-tu que Dieu te suive? Est-ce que c'est à Dieu de te suivre toute ta vie? Oui, si le juste tombe, Dieu sera là pour le relever. Mais il le fera au travers de la repentance, ce qu'on appelle la repentance. Les gens n'aiment pas se repentir. Mais parfois, lorsque nous avons fait nos propres choix, la repentance est un accès obligatoire afin que tu puisses sortir de ce hall d'entrée et entrer dans les pâturages pleins de beaux fruits excellents que Dieu te promet. Ta vie ne t'appartient plus. Et je vais terminer avec ce passage dans Jean, au chapitre 15, au verset 1. « Moi, je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, et ça fait mal, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, demeurez dans cette parole. Demeurez dans la vérité et l'obéissance à cette parole, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep. Vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu t'appelle à porter du fruit. Tu dois porter du fruit. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, Dieu t'appelle à porter du fruit. L'apôtre a dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part, afin d'être partenaire avec Jésus. La Bible dit que les apôtres ont obéi à cette parole et le Seigneur travaillait avec eux. Il confirmait sa parole par les signes qui l'accompagnaient. Les signes n'accompagnent pas ta parole. Les signes accompagnent la parole de Dieu. Quand tu annonces l'évangile, pourquoi les gens ne portent pas de fruits dans l'évangile la plupart du temps? C'est parce qu'ils basent leur évangile et leur évangélisation sur leurs propres efforts. Ils essaient encore et encore. Alors que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si tu obéis fidèlement à Dieu, comme cette femme, Eddie Baker, elle a prié pour 100 aveugles parce qu'elle croyait à Dieu. Aucun n'a été guéri. Un aveugle. Aucun n'a été guéri, il n'a pas été guéri. 2 aveugles, au bout de 15 aveugles. Seigneur, je crois toujours ta parole, même si ma réalité est différente. 50 aveugles, au bout de 100 aveugles. 2 aveugles ont été guéris d'un coup. Ils ont vu plus de 35 résurrections des morts. Des centaines d'aveugles être guéris par l'obéissance à Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, ça va te coûter tout ce que tu as. Tout ce que tu possèdes. Tous tes rêves les plus fous. Pour devoir mourir, afin que tu prennes les rêves de Dieu pour ta vie. Il est juste question de lui. Cette femme, cette veuve, la Bible dit que Jésus regardait les gens, comment ils donnaient. Et Jésus regarde comment vous vous donnez pour lui. Et il a fait remarquer cette veuve parce qu'elle a donné non pas quelques pièces, elle a donné tout ce qu'elle avait. Tout ce qu'elle avait. Si un homme riche était passé avant, et c'est ce qui s'est passé, et avait donné plus qu'elle, ça n'a pas impressionné Jésus. Cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait. Et bon, il y a des gens qui disent, « Ah, comme cette femme, je vais donner des petites pièces. » Parce qu'elle l'a fait, et Jésus a aimé ça. Et chez eux, ils ont le dernier iPhone et la dernière télévision plasma. Et ils disent, « Ah, Seigneur, je te donne mes petites pièces comme cette femme. » Jésus regarde ta vie. À quelle mesure tu vas te donner pour lui? Tu dois prendre part à l'évangile. Cette église, si c'est la tienne ou l'église, si tu es un invité et que tu as une église, tu dois te donner pour ton église. Parce que c'est Jésus qui l'a bâti. Il bâtit une maison avec des gens qui l'aident aussi. Sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Vous devez vous donner pour l'église. Toutes les réunions qui se passent dans cette église, vous devez être là. Vous devez vous donner pour votre église. Quand il y a un besoin qui est là, vous vous donnez pour votre église. Ne vous préoccupez pas des finances. Ne vous préoccupez pas de toutes ces choses parce que Dieu pourvoira. Il regardera derrière votre cœur. Ce n'est pas pour parler de moi, mais j'avais des moments tellement difficiles. Et on continuait à donner, à donner. Même plus que ce qu'on avait, comme ses disciples. Et Dieu nous a tellement bénis. Tellement bénis. À un moment, on nous avait prêté une maison gratuitement pendant 3 ans. On est venu ici pendant 3 mois, on nous a prêté une maison. Vous ne savez pas comment Dieu va vous bénir. Vous bénissez. Bénissez. Tout ce que vous avez, si vous fixez votre vie sur l'église locale, vous ne pouvez pas imaginer la gloire que Dieu a en réserve pour vous. Si vous donnez votre vie pour cette église que Dieu chérit par-dessus tout, Dieu va vous bénir. Soyez des gens passionnés de l'église. Soyez des gens qui vous donnent entièrement pour Dieu. La Bible dit « Livrez-vous vous-même tout entier à Dieu ». Tout ce que le pasteur vous demande de faire, faites-le, sans murmure ni reproche, dit la Bible. Faites-le. Si vous êtes ici, ce n'est pas pour murmurer. Ceux qui murmurent doivent être à côté. Si vous êtes ici, ce n'est pas pour murmurer, c'est pour bâtir. Vous devez bâtir cette église, pour que cette église soit de plus en plus rayonnante. S'il y a un besoin dans cette église, si vous avez vu quelque chose qui ne fonctionnait pas, ne murmurez pas, achetez. Achetez. Si la nappe là-bas est trouée, si le panneau là-bas ne vous l'aimez pas, achetez, bénissez. Je vous donne des exemples concrets, matériels, mais il y a beaucoup plus que ça. Si quelqu'un est dans le besoin, bénissez. Ne dites pas, oh le pasteur n'est pas allé voir cette sœur qui est à l'hôpital, mais comment ça? Comment c'est possible? Bénissez! Ne regardez pas ce que les autres ne font pas. Vous, faites! Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le! Fais-le! Et Dieu n'oubliera aucun de tes bienfaits envers ceux qui ont droit. Qui sont ceux qui ont droit? C'est ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Aime cette église plus que tout. Donne-toi pour elle. J'ai remarqué que les gens qui bâtissaient leur vie sur l'église étaient des gens qui voyaient la bénédiction de Dieu sur leur vie. J'aime l'église locale parce que c'est Dieu qui l'a bâtie. Dieu bénit les gens qui sont fidèles à l'église. Il les bénit d'une bénédiction sans mesure. Dieu a de grandes choses pour vous et j'aimerais juste prier maintenant. Père, je te remercie parce que ta parole est merveilleuse. Et Seigneur, j'ai essayé de transmettre ce que tu m'as donné. Et je m'attends à toi afin que cette parole descende au plus profond des cœurs. Seigneur, je suis juste un porte-parole. Je ne peux rien accomplir, je ne peux pas amener de transformation dans la vie de ton peuple. Mais toi, tu peux. Toi, tu peux tout. Quand on t'ouvre ton cœur. Seigneur, je prie qu'il y ait des cœurs qui soient prêts à changer, prêts à se donner. Même s'ils ont des questions, qu'ils ne regardent pas à leurs questions. Mais juste vouloir t'obéir. Vouloir t'obéir dans la tempête. Père, je bénis ce peuple. Je prie pour ces pasteurs. Encore fortifie-les parce qu'ils t'ont donné leur vie. Fortifie-les encore. Ta parole dit, Seigneur, que tu fortifies les os âgés. Ô Seigneur, que ceux qui vieillissent les rajeunissent comme l'aigle. Je proclame ta bénédiction sur eux. Seigneur, plus de ta ferveur encore, plus de ta force en eux. Bénis-les abondamment. Père, bénis ce peuple. Bénis les anciens dans ce peuple. Bénis les plus jeunes. Merci parce que ta bénédiction est sur cette église. Ta parole dit que tu nous as bénis de toute bénédiction. Rien n'est impossible à toi. Je bénis ce peuple. Père, glorifie-toi. Glorifie-toi. Et glorifie-toi encore. Je proclame un esprit d'unité sur cette église. Un esprit d'amour. Oh, un esprit de compassion. Non pas un esprit d'abattement, mais un esprit de joie. Un esprit de sacrifice pour toi. Père, touche cette église. Suscite des serviteurs de Dieu. Suscite des servantes de Dieu. Père, utilise des femmes pour qu'elles prient chez elles avec ferveur, avec passion. Des hommes, afin qu'ils puissent être des hommes, des chefs d'entreprise, qui puissent donner pour ton évangile. Père, suscite. Suscite des serviteurs. Dans cette région, au Québec, partout dans la francophonie, envoie, Père. Envoie des serviteurs, des servantes. Donne-leur tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Père, nous te remercions, nous te glorifions. Je te remercie pour toutes ces graines qui sont là dans ce jardin, ici dans cette ville. Merci parce qu'elles meurent, elles sont mortes en toi déjà. Et merci parce qu'elles vont pouvoir fleurir et porter beaucoup de fruits pour ta gloire. Mon désir, Père, c'est qu'en repassant ici un jour, je puisse voir beaucoup de fruits, beaucoup de témoignages, que des gens ont pu être changés par ces réunions, par cette réunion, et puissent voir ta gloire. Je bénis ton peuple, que ton amour, Seigneur, soit leur partage. Je prie, Seigneur, qu'ils aient une révélation beaucoup plus grande de ton amour, qu'ils puissent savoir la profondeur, la hauteur, la largeur de ton amour. Parce que tu nous aimes, Jésus, d'un amour éternel. Tu t'es donné pour nous, tu t'es livré pour nous. Tu as décidé d'être une graine qui meurt, afin qu'aujourd'hui on puisse regarder à ta mort et revivre. Merci parce que nous pouvons revivre en toi. Merci parce que la vie de Dieu est dans cet endroit. La vie de Dieu est dans ces esprits qui sont là. Je glorifie ton nom, Père.